Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Québec Science et La Presse. Au programme, Catherine Couturier. L'illusion des insidieux, filtre de beauté. L'Arctique sans glace. Et Québec pédale moins vite que nous. Bonne écoute.
Tester les idées de Darwin en trois actes. Un texte de Mélissa Guillemette, paru le 22 mai 2019 dans le magazine Québec Science. Un chercheur a une idée ambitieuse. Observer en temps réel la sélection naturelle à l'aide d'enclos immenses et de centaines de souris. La première fois que j'ai parlé de mon idée à ma superviseure, j'ai été soulagé qu'elle ne me renvoie pas de son bureau en riant. Se rappelle Rowan Barrett. C'était en 2010. Il termine alors un postdoctorat à l'université Harvard. Une question le taraude. Comment le processus d'adaptation à un nouvel environnement se déroule-t-il? Et surtout, comment faire pour observer la sélection naturelle dans une population sauvage? Nous voulions réunir les différentes parties du puzzle, résume Rowan Barrett, aujourd'hui professeur au département de biologie de l'Université McGill. Pour parvenir à ses fins, il propose une manœuvre ambitieuse. Capturer près de 500 souris, puis les étudier pendant des mois dans des enclos à ciel ouvert, au Nebraska. Cette approche déjà connue convient pour montrer l'adaptation locale, mais elle est très exigeante en temps, en effort et en ressources, commente Denis Réal, professeur de sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal, qui n'était pas partie prenante de l'étude. L'opération aura nécessité une équipe internationale de 10 chercheurs et une quarantaine d'assistants. Premier acte, les enclos. Formée il y a de 8 000 à 10 000 ans, la région des Sand Hills, au Nebraska, abrite une population de souris sylvestres qui a probablement évolué récemment pour s'adapter aux divers types de terrains. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs rejouent en accéléré le film de cette adaptation. Ils construisent d'abord 600 enclos de 2500 mètres carrés. 3 dans les Sand Hills, où le sol sablonneux est pâle, et 3 à 60 km de là, où le sol est plus foncé. Ils capturent ensuite, dans les alentours, 481 souris sylvestres au pelage pâle et foncé, leur posent des micropuces et les redistribuent en proportions égales dans chaque enclos. Défi supplémentaire. Pour garder les souris à l'intérieur et éviter les intrus, il fallait assurer l'étanchéité des enclos, en plus d'enfoncer les barrières de métal à plus d'un demi-mètre de profondeur afin que les souris ne creusent pas de tunnels. Excaver, expulser les serpents à sonnette, déneiger et entretenir les enclos. Un travail de terrain à 1000 lieues des activités de laboratoire. À intervalles réguliers pendant 14 mois, les chercheurs ont recensé les souris restantes et constaté, comme prévu, que les souris pâles s'en tiraient mieux face aux attaques de prédateurs aériens dans l'environnement pâle et pareillement pour les souris foncées sur le sol foncé. C'est intuitif, mais le prouver par une expérience reste très difficile, explique Rowan Barrett. Deuxième acte, les gènes. Ces recherches ne se sont pas arrêtées là. Nous voulions également observer les conséquences de la sélection sur la génétique, parce que c'est ce qui serait transmis aux générations suivantes si l'expérience se poursuivait, provoquant à terme l'évolution de la population, précise le premier auteur de l'étude publiée dans Science en février 2019. Autrement dit, Ce qu'on remarquait de visu se reflétait-il dans les gènes? Au départ, les chercheurs ont séquencé certains gènes chez les 481 souris. Cela leur a permis de découvrir que des mutations qui étaient initialement réparties de manière équivalente dans le groupe se sont retrouvées en plus grande proportion chez les rongeurs survivants. Mais ces variations ont-elles un lien avec la couleur du pelage qui a conféré un net avantage à certains individus? Troisième acte. Le laboratoire. Pour en avoir le cœur net, l'équipe a inséré ces mutations dans des souris de laboratoire et a confirmé que les mutations gagnantes sur le sol clair agissaient sur la production de pigments en entraînant une couleur dorsale plus pâle. Si la démonstration paraît banale, il n'en est rien. C'est rare qu'une étude décortique ainsi toutes les étapes d'un processus, souligne Denis Réal. Les gens voient l'évolution comme quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années, notre Owen Barrett. Mais si l'environnement change de façon radicale, des modifications génétiques peuvent survenir rapidement. Qui aurait cru que traquer des souris à la sueur de son front au beau milieu du Nebraska permettrait d'entrevoir l'avenir? C'était « Tester les idées de Darwin en trois actes », un texte de Mélissa Guilmette paru le 22 mai 2019 dans le magazine Québec Science.
L'illusion des insidieux filtres de beauté. Un texte de Catherine Hanfield paru le 6 juin 2023 dans la presse. Il y a le cache-cerne, le fond de teint, le fard à joues, les faux cils, le rouge à lèvres. Dans le monde virtuel, on trouve leur équivalent, et bien plus, dans une chose, les filtres et autres applications de retouche. Il faut réfléchir à l'impact de tout ça, croit l'organisme Équilibre, qui a décidé cette année de mettre l'accent sur ces nouvelles possibilités de l'ère numérique à l'occasion de la journée sans maquillage, tenue ce 6 juin. Il ne s'agit pas d'inciter les gens à ne plus les utiliser, encore moins de diaboliser celles et ceux qui les utilisent, mais plutôt de se questionner sur l'utilisation qu'on en fait et sur l'illusion de perfection que ces filtres génèrent, explique Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, dont la mission est de favoriser le développement d'une image corporelle positive. Ça crée une autre norme ou une autre pression, pas juste dans la vie quand on sort de chez soi, mais aussi sur les réseaux sociaux, résume-t-elle. Les filtres sont très répandus et aussi très simples à utiliser. On les trouve dans les réseaux sociaux, Instagram et TikTok en tête, ou encore dans des applications mobiles comme Facetune ou FaceApp. Ces filtres beauté peuvent à peu près tout faire. Masquer les rides, unifier le teint de la peau, empourprer les joues, noircir les cils. Certains modifient carrément les traits du visage. Sourcils plus hauts, joues sculptées, nez affiné, lèvres pulpeuses. Le filtre jeune sur FaceApp donne l'agréable et confrontante illusion de rajeunir de 20 ans. Le bold glamour sur TikTok transforme tout un chacun en top modèle en plus d'être extrêmement réaliste, même dans les séquences vidéo. Même la plateforme Zoom propose un filtre qui permet discrètement de retoucher l'apparence. En un clic, exit les cernes et les ridules. Si vous trouvez vos collègues plus beaux que vous lors de vos réunions de travail, voilà peut-être l'explication. On dirait qu'on en vient à ne plus savoir que c'est modifié. C'est l'image à laquelle on s'habitue, constate Andréanne Dufour-Bouchard, qui y voit quelque chose d'insidieux. Désormais, dit-elle, on constate non seulement un écart entre nous et les vedettes hollywoodiennes, mais également en ligne, entre nous et nos proches. Ça continue toujours de mettre l'accent, finalement, sur l'importance qui est accordée à l'apparence, ce qui peut avoir des conséquences importantes, poursuit Madame Dufour-Bouchard. Des conséquences sur l'estime de soi d'abord, mais aussi sur le temps qu'on accorde à notre apparence au détriment d'autres éléments, comme les loisirs ou l'apprentissage de nouvelles choses. Effet sur la santé mentale. Fin mai, le médecin général des États-Unis a produit un rapport sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. La comparaison sociale y est justement abordée. Une synthèse de 20 études a démontré une relation significative entre l'utilisation des réseaux sociaux, les préoccupations au sujet de l'image corporelle et les troubles alimentaires, rappelle le Dr Vivek Murthy dans son rapport. La comparaison sociale induite par les réseaux sociaux est associée à l'insatisfaction corporelle, aux troubles de l'alimentation et aux symptômes dépressifs, écrit-il. Les études montrent essentiellement des corrélations et non des relations de cause à effet, nuance Emmanuelle Parent, directrice générale et cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Les personnes qui sont déjà vulnérables à la comparaison sociale pourraient donc avoir tendance à utiliser davantage les réseaux sociaux, ce qui les rendrait encore plus vulnérables. La solution, selon elle, est d'abord de s'assurer que les jeunes évoluent dans un environnement stimulant, pratiquent des activités stimulantes et ont accès, à l'école, aux services dont ils ont besoin s'ils ont des enjeux de santé mentale. Tout ça aura une incidence probablement bien supérieure au fait de simplement interdire les filtres, estime Emmanuelle Parent. N'empêche, convient-elle, la prolifération de ces filtres demeure préoccupante. À l'échelle individuelle, ce sont des gestes qui ont l'air innocents, mais collectivement, quand tout le monde le fait, ça signifie qu'on ne se montre plus avec nos faces fatiguées, finalement, illustre Emmanuelle Parent. Encore une fois, insiste-t-on chez Équilibre, l'idée n'est pas d'inciter les gens qui utilisent ces filtres à se juger. Les gens peuvent toutefois réfléchir à comment ils se sentent lorsqu'ils voient défiler ces images léchées sur leurs réseaux sociaux et, au besoin, faire un petit ménage dans les comptes qu'ils suivent. Et on peut publier des photos de nous un peu plus dans l'action pour valoriser l'être plutôt que toujours le paraître, conclut Andréanne Dufour-Bouchard. C'était « L'illusion des insidieux filtres de beauté », un texte de Catherine Hanfield paru le 6 juin 2023 dans la presse. L'Arctique sans glace, un texte de Mathieu Perrault, paru le 7 juin 2023 dans la presse. L'Arctique pourrait être sans banquise l'été 10 ans plus tôt que prévu, selon une nouvelle étude canadienne. Et cette étape marquante pourrait être atteinte même si l'humanité réussit à devenir carboneutre dès 2050. Sous-estimation. Quand il planchait sur le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, Nathan Gillette a discuté avec sa co-auteure Sung Ki-min de l'Université de sciences et technologies de Pohang, en Corée du Sud, d'un problème manifeste avec les modèles climatiques. La quantité minimale de glace arctique était sans cesse plus basse que les prévisions, dit le climatologue d'Environnement Canada. Nous avons conclu que ça signifiait que la date où l'Arctique serait sans glace serait plus hâtive que prévu. Leur étude, publiée le 6 juin 2023 dans la revue Nature Communications, prédit que cela pourrait survenir dès les années 2030 et probablement avant 2050. Cette échéance est 10 ans plus hâtive que les prédictions antérieures. L'archipel canadien. La définition d'un océan arctique sans banquise n'est pas une mer complètement bleue. On prend le point où il y aura moins de 1 million de kilomètres carrés de glace, dit M. Gillette en entrevue de la Colombie-Britannique. Normalement, cette glace devrait être surtout dans l'archipel arctique canadien. Les îles coincent la glace et la terre reflète davantage la chaleur que le bleu sombre de l'océan libre. La surface minimale de la banquise survient en septembre. Niveau de la mer. La diminution de la banquise arctique n'accélérera pas la montée du niveau de la mer, parce qu'elle pèse déjà sur l'eau des océans. Elle pourrait par contre modifier les échanges de chaleur avec les autres océans, les continents et l'atmosphère. C'est une des questions de recherche pressantes, dit M. Gillette. En 2020, une étude allemande avait calculé que les hivers qui suivent les automnes avec moins de banquises arctiques sont plus froids dans le nord-est américain, notamment au Québec, parce que la circulation atmosphérique est affectée. L'air très froid du pôle a moins tendance à descendre plus au sud, vers les deux Carolines. La disparition de la banquise affectera aussi les ours polaires. 4 scénarios. L'étude de M. Nathan calculait la superficie minimale de la banquise arctique selon 4 scénarios du GIEC, allant d'un avenir optimiste où la Terre ne se réchauffe que de 1,8 degrés Celsius d'ici 2100 à une hypothèse funeste où l'augmentation de la température en 2100 dépasse 4 degrés Celsius. 3 facteurs de correction ont été utilisés pour les modèles. Dans le scénario le plus optimiste, il y a 5% de risque que l'Arctique soit sans glace avant 2040, et 2 des 3 facteurs de correction donnent en moyenne un Arctique sans glace vers 2050. Sans facteur de correction, les modèles estiment que l'Arctique sans glace ne surviendra pas avant 2100, peut-être même jamais. Dans le scénario le plus optimiste, les 3 facteurs de correction donnent un Arctique sans glace dès 2040, avec 5% de risque d'atteindre ce seuil dès 2030. Amplification arctique. Quel est le problème des modèles? L'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète, explique Dirk Knotts de l'Université de Hambourg, qui est co-auteur avec M. Gillette. On appelle cela l'amplification arctique. Mais les modèles sous-estiment l'amplification arctique. Ils font fondre la banquise trop lentement. Ce qu'il faut savoir. La surface minimale de la banquise sur l'océan Arctique diminue sans cesse à cause du réchauffement de la planète. Des chercheurs canadiens, coréens et allemands montrent que les modèles climatiques sous-estiment la vitesse de la diminution de la surface minimale de la banquise arctique en septembre. L'Arctique pourrait être sans glace, avec moins de 1 million de kilomètres carrés de banquise, dès la décennie 2030, selon leurs calculs. Source NASA. 9,2 millions, surface minimale de la banquise arctique en 1970, le record supérieur depuis 1950. 3,4 millions, surface minimale de la banquise arctique en 2012, le record inférieur depuis 1950. 4,7 millions, surface minimale de la banquise arctique en 2022. C'était « L'Arctique sans glace », un texte de Mathieu Perrault paru le 7 juin 2023 dans la presse. Québec pédale moins vite que nous. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 4 juin 2023 dans la presse. Il se passe quelque chose au Québec en matière de vélo. Et on ne parle pas des 36 000 cyclistes qui envahissent les rues de Montréal pour le tour de l'île. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à voir le vélo pas seulement comme un sport agréable, mais aussi comme un moyen de transport efficace. Vous voulez des preuves? Au cours de la dernière année, Montréal a doublé son budget pour les pistes cyclables et multiplie ses autoroutes pour les vélos, les REV, pour Réseau Express Vélo. La Ville de Québec inaugurera dans quelques semaines sa version du REV sur le chemin Sainte-Foy, et cette piste sera ouverte toute l'année. Le maire de Lévis insiste pour que l'on construise une piste cyclable plus large sur le pont de Québec. Longueuil quadruplera son nombre de stations Bixi. Bixi fera ses débuts en hiver à Montréal. Le vélo prend de plus en plus de place dans notre cocktail transport, et c'est tant mieux. C'est un excellent moyen de transport pour la santé, en réduisant les risques de cancer, de diabète et d'obésité. C'est excellent pour l'environnement. Remplacer un trajet quotidien aller-retour d'auto par le vélo signifie une réduction d'une tonne de CO2 par an. Un Québécois émet en moyenne 8,7 tonnes de CO2 par an. C'est aussi excellent pour nos finances publiques. Les pistes cyclables ne coûtent aux contribuables qu'une fraction du prix des routes et des transports collectifs. Selon une étude citée par la Ville de Québec, un kilomètre en auto coûte 4,9 fois plus cher à la société qu'un kilomètre en autobus et 25 fois plus cher qu'un kilomètre à vélo. Malgré notre enthousiasme, on ne plaide pas pour que tous les citoyens urbains du Québec se déplacent 100% du temps à vélo. Ça n'aurait pas de bon sens, ni en été ni en hiver. Mais on doit rendre le vélo beaucoup plus attrayant comme moyen de transport dans les 25 villes québécoises où la densité de population est suffisante. Après tout, Rotterdam, un paradis du vélo aux Pays-Bas, a une densité de population légèrement inférieure à celle de Sainte-Thérèse. En 2018, le vélo représentait 3,3% des déplacements sur l'île de Montréal. Ce chiffre est probablement aux environs de 5,3% en 2022, selon notre estimation. 1,3% à Longueuil et 1,6% à Québec. C'est très peu. La Ville de Montréal a comme objectif d'atteindre 15% en 2028. Rien à voir avec Copenhague, 41%, Amsterdam, 32%, ou Rotterdam-La Haye, 23%, mais c'est réaliste et souhaitable. Les Danois et les Néerlandais ont choisi de financer adéquatement leur réseau de pistes cyclables. La France, qui vient d'annoncer un plan vélo ambitieux, investira deux fois plus par citoyen que le Québec. Qu'on soit en Europe ou au Québec, si les gouvernements construisent des pistes cyclables sécuritaires en milieu urbain, exemple le REV, les cyclistes seront au rendez-vous et l'investissement sera très rentable. Surtout avec un système de vélos en libre-service, exemple Bixi, qui a des vélos à assistance électrique permettant de parcourir de plus grandes distances. Bien sûr, ça va déranger au début. Rappelez-vous le psychodrame autour du REV Saint-Denis en 2020. 3 ans plus tard, le REV est un immense succès. On demande même à Montréal de développer plus vite son réseau de pistes cyclables sécuritaires. Si le REV Saint-Denis est un succès, pourquoi n'est-il pas copié dans 25 autres villes au Québec? Principalement parce que le gouvernement du Québec pédale beaucoup moins vite que les citoyens. Québec sous-investit dans les pistes cyclables. C'était comme ça avant la CAQ, et ça le demeure. Certes, on vient de hausser son budget en transport actif de 10 millions par an pour atteindre 55 millions par an. Mais cette hausse est largement insuffisante. En 2023-2024, Québec investira dans le transport actif environ 1,6% de son budget total pour les routes et le transport actif, piétons, pistes cyclables. C'est très peu, considérant que le vélo représentait déjà 1,6% des déplacements à Québec en 2018, avec des infrastructures déficientes, et 3,3% des déplacements à Montréal en 2018, sans le REV. Au moins, à Montréal, l'administration Plante vient de doubler le budget annuel des pistes cyclables, de 17 millions à 41 millions par an. C'est une excellente nouvelle. Autre bonne nouvelle, Le gouvernement Trudeau a lancé en 2021 le premier fonds fédéral pour le transport actif. Sauf que le Québec n'a pas reçu sa part, environ 18 millions par an, depuis 2 ans à cause d'une chicane Québec-Ottawa. Une entente a eu lieu récemment et l'argent commencera bientôt à être dépensé. Enfin. Les principales villes du Québec ont la volonté de faire davantage de place au vélo, mais elles manquent d'argent. Juste à Québec, le maire Bruno Marchand a un plan vélo de 100 millions sur 5 ans et aimerait que le gouvernement provincial en paie la moitié. La solution à ce problème réside dans les coffres du gouvernement Legault. Vélo Québec demande au gouvernement du Québec de faire doubler son financement du transport actif, qui passerait de 55 à 100 millions par an. Si le gouvernement Legault voulait pédaler au rythme des Québécois, il accéderait à cette demande. À 100 millions par an, Québec réserverait environ 3 % de son budget route transport actif pour les transports actifs. Ce serait plus équitable. On financerait enfin le vélo comme un véritable moyen de transport. Et cet investissement serait très rentable à tous les points de vue. C'était « Québec pédale moins vite que nous », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 4 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.